Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Camille Grosdidier pour un bulletin d'information. Selon l'agence Reuters, qui cite un rapport d'experts onusiens remis vendredi au Conseil de sécurité, il existe de fait une partition de la République centrafricaine entre l'Ouest tenu par les milices chrétiennes anti-Balaka et l'Est contrôlé par les musulmans de la Séléka. Ces experts ont noté que les affrontements en Centrafrique ont fait au moins 2400 morts dans la population civile entre décembre et avril, même si le bilan effectif est probablement beaucoup plus lourd, de nombreux décès n'étant pas signalés. La police d'Abuja a déclaré samedi avoir découvert d'autres projets d'attaque contre le secteur des transports de la capitale fédérale du Nigeria. La sécurité a été renforcée à travers la ville et dans les environs, selon un communiqué de la police qui a appelé la population à la vigilance pour appuyer son travail. Et puis le président ivoirien Alassane Ouattara devrait ratifier le nouveau traité de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Les députés ivoiriens ayant voté à l'unanimité ce partenariat, le texte conclu pour une durée de 5 ans est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans. Chaque partie peut dénoncer le traité déjà ratifié par la France. Une minute de sport avec le Tour de France cycliste d'abord. Blel Kadri s'est imposé lors de la 8e étape de ce Tour de France samedi. C'est la première victoire d'un Français sur cette 101e édition et c'est également le premier succès de Kadri sur l'épreuve. En tennis, finale du tournoi de tennis WTA de Bucarest en Roumanie, eh bien, cette épreuve sur terre battue dotée de 250 000 euros opposera dimanche la Roumaine Simona Halep, 3e mondiale, à l'Italienne Roberta Vinci, 24e joueuse du monde. Et puis vous le savez, l'Argentine et l'Allemagne se retrouvent dimanche en finale du mondial au Macarena de Rio de Janeiro. L'Argentine mise sur Lionel Messi pour arracher la Coupe du Monde. Le président Barack Obama affirme que l'économie américaine va mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans, d'autant que les entreprises américaines ont créé 10 millions d'emplois. Dans son allocution hebdomadaire diffusée samedi, M. Obama note qu'il a pris des mesures pour aider la classe moyenne, dont des augmentations de salaire pour les travailleurs, la création de nouveaux emplois et une aide aux étudiants pour rembourser les prêts qui leur permettent de financer leurs études supérieures. 5e journée consécutive de bombardements israéliens mortels contre Gaza. Plus d'une centaine de Palestiniens ont péri ces derniers jours, les derniers ayant succombé durant la nuit et samedi. Côté palestinien, on chiffre le bilan à plus de 120 morts. Le Hamas et d'autres militants ont tiré près de 700 roquettes sur Israël. Mais jusqu'à présent, aucun Israélien n'a été tué, en grande partie grâce au mécanisme de défense dit « dôme de fer », un mécanisme en partie financé par les États-Unis qui protège contre les tirs. Seconde journée de pourparlers à Kaboul entre le secrétaire d'État américain John Kerry et deux candidats à la présidence de l'Afghanistan. Ces entretiens visent à désamorcer les tensions post-électorales alors que les allégations de fraude fusent de part et d'autre. La chancelière allemande Angela Merkel affirme que la perte de confiance entre son pays et les États-Unis suite à des affaires d'espionnage montre que les deux puissances ont des concepts fondamentalement différents concernant le travail des agences du renseignement. Madame Merkel a déclaré samedi qu'elle espère que les États-Unis changeront de comportement. Elle a tenu à rappeler que nous ne sommes plus au temps de la guerre froide. Jeudi, l'Allemagne a expulsé le chef de la CIA, l'agence américaine du renseignement en poste à Berlin. Ce départ a été exigé après la découverte que deux responsables du gouvernement allemand avaient trahi leur pays au profit de l'agence. Et l'Union européenne a imposé des sanctions au premier ministre autoproclamé de Donetsk, Alexandre Borodaï, qui possède la nationalité russe.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Bonjour, vous écoutez le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge et une invitée en ligne, Pramila Patten, vice-présidente du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Récemment, ce comité onusien a tenu des discussions, notamment pour revoir la situation des femmes dans plusieurs pays, en particulier la Syrie et l'Inde, également la Mauritanie. Alors, Madame Patten, bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous nous dire un mot sur la Mauritanie ? Vous avez revu avec le comité un petit peu la situation des femmes dans ce pays. Alors, que ressort-il de cette discussion ?
Nous avons examiné le deuxième rapport de la Mauritanie. 14 ans après la ratification par l'État parti de cette convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, nous constatons en tant que comité qu'il y a toujours beaucoup de problèmes, beaucoup de discrimination à l'égard des femmes. Par exemple, l'esclavage des femmes et des filles travaillant comme domestiques. Nous avons aussi évoqué que les femmes peinent à avoir accès à la justice. Il y a aussi, bien entendu, les stéréotypes et les pratiques néfastes, dont le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, la polygamie, l'alimentation forcée, qui ont d'ailleurs déjà fait l'objet de nos recommandations. Et nous avons interpellé l'État parti. Il y a, bien entendu, d'autres formes de violence contre les femmes. Les actes de violence tels que le viol, la violence domestique, y compris le viol conjugal, le harcèlement sexuel, la violence physique et psychologique liée à l'alimentation forcée. Donc, nous avons déjà donné quelques pistes que nous espérons l'État va prendre en compte quand la loi sera finalisée et adoptée.
Alors, vous avez parlé de l'alimentation forcée. Pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, qui en sont les victimes ?
L'alimentation forcée, communément appelée le gavage, c'est une pratique néfaste qui perdure, qui persiste dans les zones rurales, où on gave les petites filles. Je me suis déjà rendue en Mauritanie, mm-hmm. où j'ai travaillé beaucoup avec une femme parlementaire qui elle-même avait été victime du gavage à l'âge de 6 ans. Et elle s'est mariée à l'âge de 8 ans. Ça a été un mariage évidemment forcé, alors qu'elle vient d'une famille éduquée. Donc, elle m'a donné les détails, comment se passe un gavage classique. C'est qu'on commence très tôt à 5 ou 6 ans, gavage des petites filles essentiellement, à qui on donne du couscous, du lait, de la crème, plusieurs litres de lait par jour. Et donc, elles prennent du poids et elles sont forcées à se marier à l'âge de 8, 9, 10 ans.
C'est difficilement imaginable. C'est donc la famille qui la force à manger. Est-ce que cela veut dire qu'on lui présente à manger toute la journée ?
Tout à fait, de ce qu'elle m'a raconté. Et aujourd'hui, elle mène un combat contre le gavage des petites filles. Ayant été en victime, on force l'enfant à avaler, à manger tout ça pendant toute la journée. Et il y a la violence qui est infligée s'il y a évidemment refus ou rejet de l'alimentation en question.
Sachant que le gavage en lui-même est une extrême violence.
Tout à fait.
Africaine a donc déclaré qu'elle allait mener une grande lutte contre le mariage forcé en Afrique. Et où en est-on en Mauritanie à ce niveau-là ?
Selon les chiffres que nous avons reçus des ONG et que nous avons évidemment présentés à l'État, c'est que le mariage des petites filles reste très répandu et le pourcentage des filles mariées avant l'âge de 18 ans est de 19%.
Et la dame dont vous parliez, la dame parlementaire, vous disiez qu'elle a été mariée à 8 ans.
Elle a été mariée à 8 ans. Elle a accouché de 2 enfants à l'âge de 14 ans et elle s'est sauvée par la suite. Et elle est devenue après une femme parlementaire.
Alors, en matière de loi, je précise que cette discussion, nous la tenons donc avant les recommandations de votre comité.
Absolument.
Mais qu'est-ce que vous préconisez pour la Mauritanie? Vous avez parlé justement de cette loi contre la violence domestique, mais est-ce que c'est suffisant, notamment en matière de polygamie, de mutilation génitale féminine, etc.?
Je ne suis pas le rapporteur pour la Mauritanie, mais moi, ce que je pense est nécessaire, c'est vraiment une stratégie nationale de lutte contre ces stéréotypes sexistes. Il faut vraiment multiplier les campagnes de sensibilisation auprès des dignitaires religieux pour lutter contre les stéréotypes sexistes, parce qu'il y a vraiment une urgence à travailler avec les dignitaires religieux. Il y a aussi, il devient très important de renforcer les capacités des journalistes en matière de droits des femmes et de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Bien entendu, il faut vulgariser tout ce qu'il y a comme loi actuellement, sa traduction en langue nationale et sa mise en œuvre effective, parce que, comme je vous ai indiqué, on a noté des progrès en matière de législation, mais il faut vulgariser la loi et il faut aussi assurer l'assistance juridique. Moi, je pense que la gratuité des frais de justice pour les femmes démunies devient une urgence, ainsi que le renforcement des capacités d'accueil et d'assistance juridique des femmes démunies par l'État, mais aussi à travers les organisations de la société civile, que je dois dire est très dynamique. Mais surtout, comme on a constaté que plusieurs de nos recommandations restent non implémentées, je vais certainement pousser à ce que nous recommandons l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre de nos recommandations, et qu'on redynamise le comité national de suivi de la mise en œuvre de la CEDEF et peut-être demander ou aider la Mauritanie à avoir une assistance technique pour la mise en œuvre des recommandations du comité. Mais surtout en matière de violence, cette loi spécifique incriminant les mutilations génitales féminines ainsi que d'autres formes de violence que j'ai énumérées devient une priorité.
Alors, dans les priorités, vous mettez bien l'accent effectivement sur l'accès des femmes à la justice. Les enfants aussi, quelles sont leurs possibilités d'accéder à la justice? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'esclavage. On sait que c'est un problème très important dans cette région. Est-ce que en Mauritanie, il est toléré par la justice? Est-ce qu'il est légal d'avoir chez soi une petite bonne de 6 ou 7 ans?
Il y a une loi, mais qui n'est pas, à mon avis, n'est pas suffisante. Donc, il y aura certainement une recommandation à ce que cette loi de 2007 qui traite de femmes esclaves victimes d'exploitation et d'abus, que cette loi soit revue et qu'il faut effectivement mettre l'accent sur la dimension esclavage. Donc, il y a matière à améliorer la loi cadre, mais il y a un besoin urgent de vraiment prendre des mesures pour cibler, sensibiliser l'opinion à la nature criminelle de la détention d'esclaves, détention de femmes et de filles travaillant comme domestiques, mais essentiellement, elles sont retenues comme esclaves.
Donc, il faut dans un premier temps que cela soit effectivement réellement reconnu que ces personnes sont des esclaves et non pas des travailleuses.
Absolument. Et aussi une loi avec des sanctions sévères. Il ne suffit pas de condamner, de prohiber, mais il faut aussi sanctionner. Et déjà, lors de l'examen du rapport, nous avons interpellé le gouvernement mauritanien sur l'importance d'avoir un calendrier pour l'adoption de cette loi cadre. Et d'ailleurs, il y a eu des recommandations faites en 2009. Par la rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d'esclavage, lesquelles recommandations n'ont toujours pas été prises en compte.
Entre parenthèses.
Madame Patten, avant de parler de la Syrie, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur Conakry, parce que vous étiez membre de la commission d'enquête internationale sur ces femmes violentées, ce terrible mois de septembre que l'on n'oublie pas. Où en est-on? Est-ce que les victimes ont eu réparation?
Hélas, pas complètement. Je dois dire que ça fait mal. Là, vous soulevez un point très, très sensible, parce qu'effectivement, ce massacre de Conakry m'a beaucoup marqué. J'étais j'étais une des trois commissaires pour cette commission d'enquête internationale. On a fait nos recommandations, on a donné nos conclusions au secrétaire général des Nations Unies, on a interpellé le tribunal pénal international, mais jusqu'à présent, la justice est très lente. La Cour pénale internationale, on n'a pas d'interaction. Hein. Dès qu'on a terminé le rapport et qu'on l'a soumis au secrétaire général, notre tâche en tant que commission s'est achevée. Mais à titre personnel, je continue de suivre l'actualité à Conakry et je constate qu'il y a très peu de poursuites à ce jour. Et il n'y a toujours pas eu de jugement, parce que les jugements se font attendre. Mais je sais qu'il y a quelques ministres et quelques personnes impliquées qui ont été traduites devant les tribunaux nationaux, parce que ça a été la position du tribunal pénal international, que le tribunal interviendra uniquement si, au niveau national, ils n'ont pas les capacités de traduire les coupables, les responsables en justice. Mais il y a eu des efforts, après les élections, de recruter des juges et de demander une assistance technique. Donc il y a un panel de juges qui a été nommé, un panel d'enquêteurs pour reprendre nos recommandations. Donc il y a quelques poursuites qui sont en cours. Mais de là à dire que les femmes que moi j'ai rencontrées personnellement, les femmes que j'ai rencontrées à Conakry, mais aussi au Sénégal, qui avaient à s'échapper de cette violence et des actes d'intimidation auxquels elles étaient sujettes, toutes ces femmes attendent toujours la justice.
Je rappelle que nous sommes avec Pramila Patten, vice-présidente du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Alors la Syrie, depuis le début de la guerre, hein, 10 000 enfants dans ce pays ont été tués. Donc c'est pour donner un aperçu, un bref aperçu de la situation là-bas. Alors les femmes, les enfants, comment vivent-ils en Syrie ?
C'est effrayant ce qui se passe en Syrie. Chaque jour, chaque heure, à l'heure où on parle, les femmes et les enfants, les civils subissent des violences atroces. Et je dois dire que le dialogue a été très difficile avec le gouvernement syrien, parce qu'il y a un déni par rapport aux exactions qui sont commises par les forces de l'armée syrienne, que ce soit les services d'intelligence de la Syrie ou de l'armée syrienne. Ça a rendu le dialogue très, très, très difficile, parce que évidemment, c'est pas business as usual pour le comité. L'emphase était mise justement sur le conflit, sur la guerre civile en Syrie. Et ce n'était pas vraiment le cas du gouvernement qui est venu, qui n'a pas hésité à évoquer les exactions commises par les forces armées de l'opposition.
Et de l'autre côté, est-ce que vous avez pu justement communiquer avec des ONG, j'imagine, sur place, qui peuvent vous dire ce qu'elles ont constaté, elles, de leur côté, au niveau bilan, au niveau exactions ?
Bien sûr, en plus de multiples rapports des comités, des fact-finding, des missions, commissions d'enquête, la commission d'enquête internationale, en plus de tous ces rapports du secrétaire général, les rapports des organisations internationales et responsables comme Human Rights Watch, Amnesty International, on a aussi eu l'occasion de rencontrer des ONG, même si c'était un peu compliqué parce qu'elles étaient évidemment... Il y avait quelques représentants d'organisations non gouvernementales qui étaient des réfugiés, qui sont venus à Genève. Et il y avait d'autres qui sont venus de la Syrie avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup de frayeurs, de représailles.
Et à partir de là, est-ce qu'il y aura un terrain d'entente pour que la situation des femmes soit meilleure en Syrie dorénavant, selon vous ?
Ça fait 12 ans que je suis sur le comité. C'est la première fois que j'ai devant moi un État en guerre civile. Bon, c'est tout à l'honneur de la Syrie d'être venue devant le comité, mais de là, ma préoccupation majeure, c'est que se passera-t-il après, parce que c'est la question que j'ai posée personnellement à la délégation gouvernementale. Est-ce que nos recommandations subiront le même sort que les recommandations du comité contre la torture ou les recommandations du Conseil des droits de l'homme avec le Universal Peer Review?
Alors justement, Madame Patten, est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout, dans ce gouvernement actuel tel qu'il est, parce qu'on n'a pas le choix, vous allez pouvoir communiquer avec quelqu'un qui va faire que ces recommandations seront plus ou moins suivies?
Écoutez, nous avons des méthodes de travail, entre autres une procédure de suivi qu'on compte bien utiliser pour veiller à ce que nos recommandations, ou certainement les recommandations prioritaires, qui à mon avis, c'est vraiment la violence à l'égard des femmes, les femmes et les enfants, la situation des femmes, les human rights defenders, les femmes qui sont en détention actuellement, je pense que ce sont les questions prioritaires.
Il y a beaucoup de femmes en détention actuellement en Syrie?
Selon nos informations obtenues de sources alternatives, il y a beaucoup de femmes en détention dans des endroits connus ou inconnus. Et j'ai posé la question personnellement au gouvernement de nous donner une liste. La délégation gouvernementale, la ministre, était dans le déni complet. Il n'y a pas de femmes détenues. Donc,
et c'est une dame, la ministre?
Oui, c'est une dame, la ministre responsable de la question des femmes. Donc, nous avons cette procédure de suivi qu'on va utiliser. Nous avons aussi, par exemple, la possibilité de demander un rapport exceptionnel, parce que en termes de procédure d'examen de rapport, un gouvernement qui a ratifié la convention est tenu de soumettre un rapport chaque 4 ans. Et donc, dans des conditions normales, un gouvernement qui est devant nous revient 4 ans après. Mais pour la Syrie, nous allons utiliser toutes les méthodes de travail qui sont disponibles. Par exemple, je vais proposer certainement qu'on demande un rapport exceptionnel à la Syrie, parce que nous avons les moyens de demander, toujours sous l'article 18, de demander un rapport exceptionnel si la situation l'exige. Et je pense que pour la Syrie qui est venue devant le comité en pleine crise, on est habilité en tant que comité de demander un rapport exceptionnel. Ça pourrait être dans 6 mois, dans une année, et de ne pas avoir à attendre 4 ans pour voir quelles sont les recommandations faites par le comité qui ont été implémentées.
Parole de femme.
Pramila Patten, pour terminer, l'Inde.
Écoutez, nous avons constaté que beaucoup de nos recommandations n'ont pas été implémentées. Donc, nous avons examiné le dernier rapport de l'Inde en 2007 et nous avons constaté que beaucoup de nos recommandations sont restées lettres mortes.
On parle beaucoup en ce moment des États du Nord, Uttar Pradesh, etc., avec cette triste affaire de ces deux jeunes filles qui ont été violentée et pendue. Est-ce que là, du coup, vous avez de nouvelles recommandations à faire?
De nouvelles recommandations, et je dirais de nouvelles recommandations encore plus prononcées, plus fortes, sur ce climat d'impunité, cette violence qui se répand, qui devient épidémique, violence sexuelle surtout, mais aussi violence à l'égard des groupes de femmes marginalisées, des castes et des communautés marginalisées, par exemple les Dalits, les Adivasis. Il y a aussi toute cette question de violence, mais aussi de violence sexuelle commise dans les zones de conflit. Et aussi cette loi bouleversante qui est le Armed Forces Special Powers Act de, je crois, 1956, qui est toujours en vigueur, qui s'applique dans des endroits dits en conflit.
Comment l'explique-t-on, cette violence qui augmente? Le contraire devrait se produire, non?
Absolument. Le rapport qui a été soumis avait été préparé par le gouvernement précédent. Donc, c'était aussi difficile vraiment d'engager dans un dialogue constructif avec ce nouveau gouvernement qui est venu se présenter comme l'alternative, qui est venu s'engager. Je dois dire, ce qui a été très positif, c'est que c'est un gouvernement qui n'est pas venu rejeter le rapport de l'ancien gouvernement, mais qui est venu de bonne foi Donc il y avait beaucoup de bonne foi et le dialogue a été très constructif parce que le gouvernement, la délégation gouvernementale n'était pas dans le déni.
Donc on peut s'attendre à une certaine forme d'amélioration pour l'Inde.
Et il y a eu beaucoup d'engagement. C'était un gouvernement qui demandait des directives du comité, qui a vraiment accueilli les questions soulevées par les experts, qui était très réceptif aux préoccupations du comité. Donc moi, je suis assez positive.
Donc on va terminer, si vous le voulez bien, justement sur cette idée que les choses peuvent changer, cette note positive. Je rappelle que vous êtes vice-présidente, Madame Pramila Patel, du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, donc invitée en ligne à Genève. Madame Patel, merci beaucoup, bonne chance et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want.
Encore aujourd'hui, dans certains pays non musulmans, les droits des femmes sont tributaires des tribunaux islamiques. Qu'en est-il de l'éradication de la polygamie, de la lapidation ou du mariage des enfants, à l'heure où ces tribunaux exercent également dans des pays dits ou se disant laïcs, ou du moins disposant d'institutions à caractère laïque ? La Cour suprême en Inde a jugé que les tribunaux basés sur la charia n'ont aucune autorité juridique et que les fatwas touchant aux droits fondamentaux sont illégales. Bien que l'Inde se définisse dans sa constitution comme république séculaire, ces tribunaux islamiques ne sont toutefois pas interdits. Quelques précisions avec Michel Joseph.
La décision de la Cour suprême indienne a été prise après une requête voulant que les tribunaux islamiques soient dissous. Le requérant citait le cas d'une femme dont le mariage a été annulé par un tribunal islamique qui lui a ordonné de vivre avec son beau-père qui l'aurait violée. La plus haute cour indienne a statué que les fatwas émises par des religieux musulmans ne pouvaient pas limiter les droits fondamentaux de l'individu. Le jugement dit qu'aucune religion, y compris l'islam, n'encourage les gens à punir des innocents par des décrets non sanctionnés par la loi. Et il souligne que les musulmans n'ont aucune obligation de se conformer à ces directives. En revanche, la Haute Cour a rejeté la demande du requérant de dissoudre ces tribunaux basés sur la charia, jugeant que si une personne veut encore les saisir, c'est selon sa volonté. Les membres de All India Muslim Personal Law Board ont défendu les tribunaux islamiques, disant que la Cour suprême avait simplement schématisé la délivrance des fatwas. Zafariab Gilani est membre du conseil d'administration.
We had never said that the qazi, or order of a qazi.
Nous n'avons jamais dit que le qadi ou une ordonnance d'un qadi est obligatoire pour toute partie et qu'il ne peut pas saisir un tribunal de droit.
La constitution indienne permet aux musulmans de suivre la charia, notamment sur les questions matrimoniales et de droit de succession. Kamal Farouki, un leader religieux musulman, dit que les tribunaux islamiques n'ont jamais essayé de bloquer l'accès à d'autres tribunaux.
Si deux musulmans sont prêts à aller en arbitrage et à demander un jugement pour la réconciliation ou pour donner leur opinion, il n'y a rien de mal à cela. Légalement, il est obligatoire. Mais si les deux parties ne s'entendent pas, en fin de compte, c'est la loi du pays qui prévaudra.
L'arrêt de la Cour est susceptible de relancer un débat de plusieurs décennies sur ce que l'on appelle le Code civil uniforme en Inde. Le Bharatiya Janata Party au pouvoir a longtemps soutenu une loi commune sur les questions de mariage, de propriété et de divorce. pour que les femmes et hommes aient des mêmes droits. Mais d'influents groupes musulmans considèrent qu'une telle loi est contraire à leur religion.
Et c'est ainsi que s'achève le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You rise.